Chapitre 4. Marche en avant des Français. Rostopchine. Bonaparte au Mont du Salut. Vue de Moscou. Entrée de Napoléon au Kremlin. Incendie de Moscou. Bonaparte gagne avec peine Petrovski. Écriteau de Rostopchine. Séjour sur les ruines de Moscou. Occupation de Bonaparte. Entre la Moscova et Moscou, Murat engagea une affaire devant Mojaïsk. On entra dans la ville, où l'on trouva 10 000 morts et mourants. On jeta les morts par les fenêtres pour loger les vivants. Les Russes se repliaient en bon ordre sur Moscou. Dans la soirée du 13 septembre, Koutouzov avait assemblé un conseil de guerre. Tous les généraux déclarèrent que Moscou n'était pas la patrie. Buturlin, entre parenthèses histoire de la campagne de Russie, le même officier qu'Alexandre envoya au quartier de Monseigneur le duc d'Angoulême en Espagne, Barclay, dans son mémoire justificatif, donne les motifs qui déterminèrent l'opinion du Conseil. Koutouzov proposa au roi de Naples une suspension d'armes, tandis que les soldats russes traverseraient l'ancienne capitale des Tsars. La suspension fut acceptée, car les Français voulaient conserver la ville. Murat seulement serrait de près l'arrière-garde ennemie et nos grenadiers emboîtaient le pas du grenadier russe qui se retirait. Mais Napoléon était loin du succès auquel il croyait toucher. Koutouzov cachait Rostopchine. Le comte Rostopchine était gouverneur de Moscou. La vengeance promettait de descendre du ciel. Un ballon monstrueux, construit à grands frais, devait planer sur l'armée française, choisir l'empereur entre 1 000, s'abattre sur sa tête dans une pluie de fer et de feu. À l'essai, les ailes de l'aérostat brisèrent. Force fut de renoncer à la bombe des nuées. Mais les artifices restèrent à Rostopchine. Les nouvelles du désastre de Borodino étaient arrivées à Moscou, tandis que sur un bulletin de Koutouzov, on se flattait encore de la victoire dans le reste de l'Empire. Rostopchine avait fait diverses proclamations en prose rimée. Il disait « Allons, mes amis les moscovites, marchons aussi. Nous rassemblerons 100 000 hommes, nous prendrons l'image de la Sainte Vierge, 150 pièces de canon, et nous mettrons fin à tout. » Il conseillait aux habitants de s'armer simplement de fourches, un Français ne pesant pas plus qu'une gerbe. On sait que Rostopchine a décliné toute participation à l'incendie de Moscou. On sait aussi qu'Alexandre ne s'est jamais expliqué à ce sujet. Rostopchine a-t-il voulu échapper aux reproches des nobles et des marchands dont la fortune avait péri? Alexandre a-t-il craint d'être appelé un barbare par l'Institut? Ce siècle est si misérable. Bonaparte en avait tellement accaparé toutes les grandeurs que quand quelque chose de digne arrivait, chacun s'en défendait et en repoussait la responsabilité. L'incendie de Moscou restera une résolution héroïque qui sauva l'indépendance d'un peuple et contribua à la délivrance de plusieurs autres. Numance n'a point perdu ses droits à l'admiration des hommes. Qu'importe que Moscou ait été brûlée? Ne l'avait-il pas été déjà 7 fois? N'est-il pas aujourd'hui brillant et rajeuni? Bien que dans son 21e bulletin, Napoléon eût prédit que l'incendie de cette capitale retarderait la Russie de 100 ans. Le malheur même de Moscou, dit admirablement Madame de Staël, a régénéré l'Empire. Cette ville religieuse a péri comme un martyr, dont le sang répandu donne de nouvelles forces aux frères qui lui survivent. Entre parenthèses, 10 années d'exil. Où en seraient les nations si Bonaparte, du haut du Kremlin, eût couvert le monde de son despotisme comme d'un drap mortuaire? les droits de l'espèce humaine passent avant tout pour moi. La terre fût-elle un globe explosible, je n'hésiterais pas à y mettre le feu s'il s'agissait de délivrer mon pays. Toutefois, il ne faut rien moins que les intérêts supérieurs de la liberté humaine pour qu'un Français, la tête couverte d'un crêpe et les yeux pleins de larmes, puisse se résoudre à raconter une résolution qui devait devenir fatale à tant de Français. On a vu à Paris le comte Rostopchine, homme instruit et spirituel. Dans ses écrits, la pensée se cache sous une certaine bouffonnerie, espèce de barbare policé, de poète ironique, dépravé même, capable de généreuses dispositions tout en méprisant les peuples et les rois. Les églises gothiques admettent, dans leur grandeur, des décorations grotesques. La débâcle avait commencé à Moscou. Les routes de Kazan étaient couvertes de fugitifs à pied, en voiture, isolés ou accompagnés de serviteurs. Un présage avait un moment ranimé les esprits. Un vautour s'était embarrassé dans les chaînes qui soutenaient la croix de la principale église. Rome eut, comme Moscou, vu dans ce présage, la captivité de Napoléon. À l'approche des longs convois de blessés russes qui se présentaient aux portes, toute espérance s'évanouit. Kutuzov avait flatté Rostopchine de défendre la ville avec 91 000 hommes qui lui restaient. Vous venez de voir que le conseil de guerre l'obligeait de se retirer. Rostopchine demeura seul. La nuit descend. Des émissaires vont frapper mystérieusement aux portes, annoncent qu'il faut partir et que Ninive est condamnée. Des matières inflammables sont introduites dans les édifices publics et les bazars, dans les boutiques et les maisons particulières. Les pompes sont enlevées. Alors, Rostopchine ordonne d'ouvrir les prisons. Du milieu d'une troupe immonde, on fait sortir un Russe et un Français. Le Russe, appartenant à une secte d'illuminés allemands, est accusé d'avoir voulu livrer sa patrie et d'avoir traduit la proclamation des Français. Son père accourt, le gouverneur lui accorde un moment pour bénir son fils. « Moi, bénir un traître ?» s'écrie le vieux moscovite, et il le maudit. Le prisonnier est livré à la populace et abattu. « Pour toi, dit Rostopchine aux Français, tu devais désirer l'arrivée de tes compatriotes. Sois libre. Va dire aux tiens que la Russie n'a eu qu'un seul traître et qu'il est puni. » Les autres malfaiteurs relâchés reçoivent, avec leur grâce, les instructions pour procéder à l'incendie, quand le moment sera venu. Rostopchine sort le dernier de Moscou, comme un capitaine de vaisseau quitte le dernier son bord dans un naufrage. Napoléon, monté à cheval, avait rejoint son avant-garde. Une hauteur restait à franchir. Elle touchait à Moscou de même que Montmartre à Paris. Elle s'appelait le Mont du Salut parce que les rues s'y priaient à la vue de la ville sainte, comme les pèlerins en apercevant Jérusalem. Moscou aux coupoles dorées, disent les poètes slaves, resplendissait à la lumière du jour, avec ses 295 églises, ses 1500 châteaux, ses maisons ciselées, colorées en jaune, en vert, en rose. Il n'y manquait que les cyprès et le Bosphore. Le Kremlin faisait partie de cette masse couverte de fer poli ou peinturé. Au milieu d'élégantes villas de briques et de marbre, la Moscova coulait parmi des parcs ornés de bois de sapin, palmiers de ce ciel. Venise, au jour de sa gloire, ne fut pas plus brillante dans les flots de l'Adriatique. Ce fut le 14 septembre, à 2 heures de l'après-midi, que Bonaparte, par un soleil orné des diamants du pôle, aperçut sa nouvelle conquête. Moscou, comme une princesse européenne aux confins de son empire, parée de toutes les richesses de l'Asie, semblait amenée là pour épouser Napoléon. Une acclamation s'élève, Moscou, Moscou ! S'écrient nos soldats. Ils battent encore des mains. Au temps de la vieille gloire, ils criaient, revers ou prospérité, vive le roi ! Ce fut un beau moment, dit le lieutenant général de Baudus, que celui où le magnifique panorama présenté par l'ensemble de cette immense cité s'offrit tout à coup à mes regards. Je me rappellerai toujours l'émotion qui se manifesta dans les rangs de la division polonaise. Elle me frappa d'autant plus qu'elle se fit jour par un mouvement empreint d'une pensée religieuse. En apercevant Moscou, les régiments entiers se jetèrent à genoux et remercièrent le Dieu des armées de les avoir conduits par la victoire dans la capitale de leur ennemi le plus acharné. Les acclamations cessent, on descend, muet, vers la ville. Aucune députation ne sort des portes pour présenter les clés dans un bassin d'argent. Le mouvement de la vie était suspendu dans la grande cité. Moscou chancelait silencieuse devant l'étranger. 3 jours après, elle avait disparu. La circassienne du Nord, la belle fiancée, s'était couchée sur son bûcher funèbre. Lorsque la ville était encore debout, Napoléon, en marchant vers elle, s'écriait « La voilà donc, cette ville fameuse !» Il regardait. Moscou, délaissée, ressemblait à la cité pleurée dans les lamentations. Déjà, Eugène et Poniatowski ont débordé les murailles. Quelques-uns de nos officiers pénètrent dans la ville. Ils reviennent et disent à Napoléon « Moscou est déserte ». « Moscou est déserte, c'est invraisemblable qu'on m'amène les boyards. » Point de boyards, il n'est resté que des pauvres qui se cachent. Rues abandonnées, fenêtres fermées, aucune fumée ne s'élève des foyers d'où s'en échapperont bientôt des torrents. Pas le plus léger bruit. Bonaparte hausse les épaules. Murat, s'étant avancé jusqu'au Kremlin, y est reçu par les hurlements des prisonniers devenus libres pour délivrer leur patrie. On est contraint d'enfoncer les portes à coups de canon. Napoléon s'était porté à la barrière de Dorogomilov. Il s'arrêta dans une des premières maisons du faubourg, fit une course le long de la Moscova, ne rencontra personne. Il revint à son logement, nomma le maréchal Mortier, gouverneur de Moscou, le général Duronel, commandant de la place, et M. de Lesseps, chargé de l'administration en qualité d'intendant. La garde impériale et les troupes étaient en grande tenue pour paraître devant un peuple absent. Bonaparte apprit bientôt, avec certitude, que la ville était menacée de quelque événement. À 2 heures du matin, on lui vient dire que le feu commence. Le vainqueur quitte le faubourg de Dorogomilov et vient s'abriter au Kremlin. C'était dans la matinée du 15. Il éprouva un moment de joie en pénétrant dans le palais de Pierre le Grand. Son orgueil satisfait écrivit quelques mots à Alexandre, à la réverbération du bazar qui commençait à brûler. Comme autrefois, Alexandre vaincu lui écrivait un billet du champ d'Austerlitz. Dans le bazar, on voyait de longues rangées de boutiques toutes fermées. On contient d'abord l'incendie, mais dans la seconde nuit, il éclate de toutes parts. Des globes lancés par des artifices crèvent, retombent en gerbes lumineuses sur les palais et les églises. Une bise violente pousse les étincelles et lance les flammèches sur le Kremlin. Il renfermait un magasin à poudre. Un parc d'artillerie avait été laissé sous les fenêtres mêmes de Bonaparte. De quartier en quartier, nos soldats sont chassés par les effluves du volcan. Des gorgones et des méduses, la torche à la main, parcourent les carrefours livides de cet enfer. D'autres attisent le feu avec des lances de bois goudronnées. Bonaparte, dans les salles du nouveau Pergame, se précipite aux croisées, s'écrie « Quelle résolution extraordinaire! Quels hommes! Ce sont des scythes !» Le bruit se répand que le Kremlin est miné. des serviteurs se trouvent mal, des militaires se résignent. Les bouches des divers brasiers en dehors s'élargissent, se rapprochent, se touchent. La tour de l'arsenal, comme un haut cierge, brûle au milieu d'un sanctuaire embrasé. Le Kremlin n'est plus qu'une île noire contre laquelle se brise une mer ondoyante de feu. Le ciel, reflétant l'illumination, est comme traversé des clartés mobiles d'une aurore boréale. La troisième nuit descendait, on respirait à peine dans une vapeur suffocante. Deux fois, des mèches ont été attachées au bâtiment qu'occupait Napoléon. Comment fuir ? Les flammes attroupées bloquent les portes de la citadelle. En cherchant de tous les côtés, on découvre une poterne qui donnait sur la Moscova. Le vainqueur avec sa garde se dérobe par ce guichet de salut. Autour de lui, dans la ville, des voûtes se fondent en mugissant. Des clochers, d'où découlaient des torrents de métal liquéfiés, se penchent, se détachent et tombent. Des charpentes, des poutres, des toits craquants, pétillants, croulants, s'abîment dans un flégeton dont ils font rejaillir la lame ardente et des millions de paillettes d'or. Bonaparte ne s'échappe que sur des charbons refroidis d'un quartier déjà réduit en cendres. Il gagne Petrovski, villa du Tsar. Le général Gourgaud, critiquant l'ouvrage de M. de Ségur, accuse l'officier d'ordonnance de l'empereur de s'être trompé. En effet, il demeure prouvé, par le récit de M. de Baudus, aide de camp du maréchal Bessières, et qui servit lui-même de guide à Napoléon, que celui-ci ne s'évada pas par une poterne, mais qu'il sortit par la grande porte du Kremlin. Du rivage de Sainte-Hélène, Napoléon revoyait brûler la ville des sites. Jamais, dit-il, en dépit de la poésie, toutes les fictions de l'incendie de Troie n'égaleront la réalité de celui de Moscou. Remémorant antérieurement cette catastrophe, Bonaparte écrit encore « Mon mauvais génie m'apparut et m'annonça ma fin que j'ai trouvée à l'île d'Elbe. » Kutuzov avait d'abord pris sa route à l'Orient. Ensuite, il se rabattit au Midi. Sa marche de nuit était à demi éclairée par l'incendie lointain de Moscou, dont il sortait un bourdonnement lugubre. On eût dit que la cloche, qu'on n'avait jamais pu monter à cause de son énorme poids, eût été magiquement suspendue au haut d'un clocher brûlant pour teinter les glas. Kutuzov atteignit Voronovo, possession du comte Rostopchine. À peine avait-il aperçu la superbe demeure qu'elle s'enfonce dans le gouffre de nouvelles conflagrations. Sur la porte de fer d'une église, on lisait cet écriteau, « La scripta morta », de la main du propriétaire. « J'ai embelli pendant 8 ans cette campagne et j'y ai vécu heureux au sein de ma famille. Les habitants de cette terre, au nombre de 1720, la quittent à votre approche. Et moi, je mets le feu à ma maison, pour qu'elle ne soit pas souillée par votre présence. Français, je vous ai abandonné mes 2 maisons de Moscou avec un mobilier d'un 500 000 de roubles. Ici, vous ne trouverez que des cendres. » Rostopchine. Bonaparte avait au premier moment admiré les feux et les sites comme un spectacle apparenté à son imagination. Mais bientôt le mal que cette catastrophe lui faisait le refroidit et le fit retourner à ses injurieuses diatribes. En envoyant la lettre de Rostopchine en France, il ajoute « Il paraît que Rostopchine est aliéné. Les Russes le regardent comme une espèce de marat. Qui ne comprend pas la grandeur dans les autres ne la comprendra pas pour soi quand le temps des sacrifices sera venu. » Alexandre avait appris sans abattement son adversité. « Reculerons-nous, écrivait-il dans ses instructions circulaires, quand l'Europe nous encourage de ses regards, servons-lui d'exemple, saluons la main qui nous choisit pour être la première des nations, dans la cause de la vertu et de la liberté. Suivait une invocation au Très-Haut, un style dans lequel se trouvent les mots de Dieu, de vertu, de liberté, et puissant. Il plaît aux hommes, les rassure et les console. Combien il est supérieur à ces phrases affectées, tristement empruntées d'élocutions païennes et fatalistes à la turque. Il fut, ils ont été, la fatalité les entraîne. Phraséologie stérile, toujours vaine, alors même qu'elle est appuyée sur les plus grandes actions. Sorti de Moscou dans la nuit du 15 septembre, Napoléon y rentra le 18. Il avait rencontré, en revenant, des foyers allumés sur la fange, nourris avec des meubles d'acajou et des lambris dorés. Autour de ces foyers en plein air étaient des militaires noircis, crottés, en lambeaux, couchés sur des canapés de soie ou assis dans des fauteuils de velours, ayant pour tapis sous leurs pieds, dans la boue, des châles de cachemire, des fourrures de la Sibérie, des étoffes d'or de la Perse, mangeant dans des plats d'argent une pâte noire ou de la chair sanguinolente de cheval grillé. Un pillage irrégulier ayant commencé, on le régularisa. Chaque régiment vint à son tour à la curée. Des paysans chassés de leurs huttes, des cosaques, des déserteurs de l'ennemi rôdaient autour des Français et se nourrissaient de ce que nos escouades avaient rongé. On emportait tout ce qu'on pouvait prendre. Bientôt, surchargés de ces dépouilles, on les jetait, quand on venait à se souvenir qu'on était à 600 lieues de son toit. Les courses que l'on faisait pour trouver des vivres produisaient des scènes pathétiques. Une escouade française ramenait une vache. Une femme s'avança, accompagnée d'un homme qui portait dans ses bras un enfant de quelques mois. Il montrait du doigt la vache qu'on venait de leur enlever. La mère déchira les misérables vêtements qui couvraient son sein pour montrer qu'elle n'avait plus de lait. Le père fit un mouvement comme s'il eût voulu briser la tête de l'enfant sur une pierre. L'officier fit rendre la vache, et il ajoute « L'effet que produisit cette scène sur mes soldats fut tel que pendant longtemps il ne fut pas prononcé une seule parole dans les rangs. » Bonaparte avait changé de rêve. Il déclarait qu'il voulait marcher à Saint-Pétersbourg. Il traçait déjà la route sur ses cartes. Il expliquait l'excellence de son plan nouveau, la certitude d'entrer dans la seconde capitale de l'Empire. Qu'a-t-il à faire désormais sur des ruines? Ne suffit-il pas à sa gloire qu'il soit monté au Kremlin? Telles étaient les nouvelles chimères de Napoléon. L'homme touchait à la folie, mais ses songes étaient encore ceux d'un esprit immense. Nous ne sommes qu'à 15 marches de Saint-Pétersbourg, dit M. Fin. Napoléon pense à se rabattre sur cette capitale. Au lieu de 15 marches, à cette époque, et dans de pareilles circonstances, il faut lire 2 mois. Le général Courgaud ajoute que toutes les nouvelles qu'on recevait de Saint-Pétersbourg annonçaient la peur qu'on avait du mouvement de Napoléon. Il est certain qu'à Saint-Pétersbourg, on ne doutait point du succès de l'empereur s'il se présentait, mais on se préparait à lui laisser une seconde carcasse de cité, et la retraite sur Archangel était jalonnée. On ne soumet point une nation dont le pôle est la dernière forteresse. De plus, les flottes anglaises, pénétrant au printemps dans la Baltique, auraient réduit la prise de Saint-Pétersbourg à une simple destruction. Mais tandis que l'imagination sans frein de Bonaparte jouait avec l'idée d'un voyage à Saint-Pétersbourg, il s'occupait sérieusement de l'idée contraire. Sa foi dans son espérance n'était pas telle qu'on lui ôtât tout bon sens. Son projet dominant était d'apporter à Paris une paix signée à Moscou. Par là, il se serait débarrassé des périls de la retraite. Il aurait accompli une étonnante conquête et serait rentré aux Tuileries le rameau d'olivier à la main. Après le premier billet qu'il avait écrit à Alexandre en arrivant au Kremlin, il n'avait négligé aucune occasion de renouveler ses avances. Dans un entretien bienveillant avec un officier général russe, M. de Toutelmine, sous-directeur de l'hôpital des enfants trouvés à Moscou, hôpital miraculeusement épargné de l'incendie, il avait glissé des paroles favorables à un accommodement. Par M. Jakovlev, frère de l'ancien ministre russe à Stuttgart, il écrivit directement à Alexandre, et M. Jakovlev prit l'engagement de remettre cette lettre au tsar sans intermédiaire. Enfin, le général Lauriston fut envoyé à Koutouzov. Celui-ci promit ses bons offices pour une négociation pacifique. Mais il refusa au général Lauriston de lui délivrer un sauf-conduit pour Saint-Pétersbourg. Napoléon était toujours persuadé qu'il exerçait sur Alexandre l'empire qu'il avait exercé à Tilsit et à Erfurt. Et cependant Alexandre écrivait le 21 octobre au prince Michel Larkanovitz. J'ai appris, à mon extrême mécontentement, que le général Bennigsen a eu une entrevue avec le roi de Naples. Toutes les déterminations dans les ordres qui vous sont adressés par moi doivent vous convaincre que ma résolution est inébranlable, que dans ce moment, aucune proposition de l'ennemi ne pourrait m'engager à terminer la guerre et à affaiblir par là le devoir sacré de venger la patrie. Les généraux russes abusaient de l'amour-propre et de la simplicité de Murat, commandant de l'avant-garde. Toujours charmé de l'empressement des Cosaques, il empruntait des bijoux de ses officiers pour faire des présents à ses courtisans du Don. Mais les généraux russes, loin de désirer la paix, la redoutaient, malgré la résolution d'Alexandre. Ils connaissaient la faiblesse de leur empereur, et ils craignaient la séduction d'une autre. Pour la vengeance, il ne s'agissait que de gagner un mois, que d'attendre les premiers frimas. Les vœux de la chrétienté moscovite suppliaient le ciel de hâter ces tempêtes. Le général Wilson, en qualité de commissaire anglais à l'armée russe, était arrivé. Il s'était déjà trouvé sur le chemin de Bonaparte en Égypte. Favier, de son côté, était revenu de notre armée du Midi à celle du Nord. L'Anglais poussait Koutouzov à l'attaque, et l'on savait que les nouvelles apportées par Favier n'étaient pas bonnes. Des deux bouts de l'Europe, les deux seuls peuples qui combattaient pour leur liberté se donnaient la main par-dessus la tête du vainqueur à Moscou. La réponse d'Alexandre n'arrivait point. Les estafettes de France s'attardèrent, l'inquiétude de Napoléon augmentait. Des paysans avertissaient nos soldats. « Vous ne connaissez pas notre climat, » leur disait-il. « Dans un mois, le froid vous fera tomber les ongles. » Milton, dont le grand nom agrandit tout, s'exprime aussi naïvement dans sa « Moscovie ». Il fait si froid dans ce pays que la sève des branches mises au feu gèle en sortant du bout opposé à celui qui brûle. Bonaparte, sentant qu'un pas rétrograde rompait le prestige et faisait évanouir la terreur de son nom, ne pouvait se résoudre à descendre. Malgré l'avertissement du prochain péril, il restait, attendant de minute en minute des réponses de Saint-Pétersbourg. Lui, qui avait commandé avec tant d'outrage, soupirait après quelques mots miséricordieux du vaincu. Il s'occupe au Kremlin d'un règlement pour la Comédie-Française. Il met 3 soirées à achever ce majestueux ouvrage. Il discute avec ses aides de camp le mérite de quelques vers nouveaux arrivés de Paris. Autour de lui, on admirait le sang-froid du grand homme, tandis qu'il y avait encore des blessés de ses derniers combats, expirant dans des douleurs atroces, et que, par ce retard de quelques jours, il dévouait à la mort les 100 000 hommes qui lui restaient. La servile stupidité du siècle prétend faire passer cette pitoyable affectation pour la conception d'un esprit incommensurable. Bonaparte visita les édifices du Kremlin. Il descendit et remonta l'escalier sur lequel Pierre le Grand fit égorger les Strelitz. Il parcourut la salle des festins où Pierre se faisait amener des prisonniers, abattant une tête entre chaque rasade, proposant à ses convives, princes et ambassadeurs, de se divertir de la même façon. Des hommes furent roués alors, et des femmes enterrées vives. On pendit 2000 Strelitz, dont les corps restèrent accrochés autour des murailles. Au lieu de l'ordonnance sur les théâtres, Bonaparte eut mieux fait d'écrire au Sénat conservateur la lettre que des bords du Prut, Pierre écrivait au Sénat de Moscou. « Je vous annonce que, trompé par de faux avis, et sans qu'il y ait de ma faute, je me trouve ici enfermé dans mon camp par une armée 4 fois plus forte que la mienne. S'il arrive que je sois pris, vous n'avez plus à me considérer comme votre tsar et seigneur, ni à tenir compte d'aucun ordre qui pourrait vous être porté de ma part, quand même vous y reconnaîtriez ma propre main. Si je dois périr, vous choisirez pour mon successeur le plus digne d'entre vous. » Un billet de Napoléon, adressé à Cambacérès, contenait des ordres inintelligibles. On délibéra, et quoique la signature du billet portât un nom allongé d'un nom antique, l'écriture ayant été reconnue pour être celle de Bonaparte, on déclara que les ordres inintelligibles devaient être exécutés. Le Kremlin renfermait un double trône pour 2 frères. Napoléon ne partageait pas le sien. On voyait encore dans les salles le brancard brisé d'un coup de canon, sur lequel Charles XII, blessé, se faisait porter à la bataille de Poultava. Toujours vaincu dans l'ordre des instincts magnanimes, Bonaparte, en visitant les tombeaux des tsars, se souvint-il qu'au jour de fête, on les couvrait de draps mortuaires superbes, que lorsqu'un sujet avait quelque grâce à solliciter, il déposait sa supplique sur un des tombeaux, et que le tsar avait seul le droit de l'en retirer. Ces placets de l'infortune, présentés par la mort à la puissance, n'étaient point du goût de Napoléon. Il était occupé d'autres soins. Moitié désir de tromper, moitié nature, il prétendait, comme en quittant l'Égypte, faire venir des comédiens de Paris à Moscou, et il assurait qu'un chanteur italien arrivait. Il dépouilla les églises du Kremlin, entassa dans ses fourgons des ornements sacrés et des images de saints avec les croissants et les queues de cheval conquis sur les mahométans. Il enleva l'immense croix de la tour du Grand Ivan. Son projet était de la planter sur le dôme des Invalides. Elle eût fait le pendant des chefs-d'œuvre du Vatican, dont il avait décoré le Louvre. Tandis qu'on détachait cette croix, des corneilles vagissantes voletaient autour. « Que me veulent ces oiseaux ?» disait Bonaparte. On touchait au moment fatal. Daru élevait des objections contre divers projets qu'exposait Bonaparte. « Quel parti prendre donc ?» s'écria l'empereur. « Rester ici, faire de Moscou un grand camp retranché, y passer l'hiver, faire saler les chevaux qu'on ne pourra nourrir, attendre le printemps, nos renforts et la Lituanie armée viendront nous délivrer et achever la conquête. C'est un conseil de lion, répond Napoléon. Mais que dirait Paris ? La France ne s'accoutumerait pas à mon absence. Que dit-on de moi à Athènes ? Disait Alexandre. Il se replonge aux incertitudes. Partira-t-il ? Ne partira-t-il pas ? Il ne sait. Maintes délibérations se succèdent. Enfin, une affaire engagée à Vinkovo le 18 octobre le détermine subitement à sortir des débris de Moscou avec son armée. Ce jour-là même, sans appareil, sans bruit, sans tourner la tête, voulant éviter la route directe de Smolensk, il s'achemine par l'une des deux routes de Kalouga. Durant 35 jours, comme ces formidables dragons de l'Afrique qui s'endorment après s'être repus, il s'était oublié. C'était apparemment les jours nécessaires pour changer le sort d'un homme pareil. Pendant ce temps-là, l'astre de sa destinée s'inclinait. Enfin, il se réveille pressé entre l'hiver et une capitale incendiée. Il se glisse au dehors des décombres. Il était trop tard. 100 000 hommes étaient condamnés. Le maréchal Mortier, commandant l'arrière-garde, a l'ordre, en se retirant, de faire sauter le Kremlin. Entre parenthèses, on achève d'imprimer à Saint-Pétersbourg les papiers d'État sur cette campagne, trouvés dans le cabinet d'Alexandre après sa mort. Ces documents, formant 5 à 6 volumes, jetteront sans doute un grand jour sur les événements si curieux d'une partie de notre histoire. Il sera bon de lire avec précaution les récits de l'ennemi, et cependant avec moins de défiance que les documents officiels de Bonaparte. Il est impossible de se figurer à quel point celui-ci altérait la réalité et la rendait insaisissable. Ses propres victoires se transformaient en romans dans son imagination. Toutefois, au bout de ces relations fantasmagoriques, restait cette vérité, à savoir que Napoléon, par une raison ou par une autre, était le maître du monde. Paris, note de 1841, note de l'auteur. Chapitre 5. Retraite. Bonaparte, se trompant ou voulant tromper les autres, écrivit le 18 d'octobre au duc de Bassano une lettre que rapporte M. Pin. « Vers les premières semaines de novembre, mandait-il, j'aurai ramené mes troupes dans le carré qui est entre Smolensk, Mohylov, Minsk et Vitebsk. Je me décide à ce mouvement parce que Moscou n'est plus une position militaire. J'en vais chercher une autre plus favorable, au début de la campagne prochaine. Les opérations auront alors à se diriger sur Pétersbourg et sur Kiev. Pitoyable forfanterie, s'il ne s'agissait que du secours passager d'un mensonge. Mais dans Bonaparte, une idée de conquête, malgré l'évidence contraire de la raison, pouvait toujours être une idée de bonne foi. On marchait sur Malo-Jaroslavets. Par l'embarras des bagages et des voitures mal attelées de l'artillerie, le 3e jour de marche, on n'était encore qu'à 10 lieues de Moscou. On avait l'intention de devancer Kutuzov. L'avant-garde du prince Eugène le prévint en effet à Fominskoï. Il restait encore 100 000 hommes d'infanterie au début de la retraite. La cavalerie était presque nulle, à l'exception de 3 500 chevaux de la garde. Nos troupes, ayant atteint la nouvelle route de Kalouga le 21, entrèrent le 22 à Borovsk. Et le 23, la division d'Elzon occupa Malo-Jaroslavets. Napoléon était dans la joie. Il se croyait échappé. Le 23 octobre, à 1h30 du matin, la terre trembla. 183 milliers de poudres, placées sous les voûtes du Kremlin, déchirèrent le palais des Tsars. Mortier, qui fit sauter le Kremlin, était réservé à la machine infernale de Fieschi. Que de monde passé entre ces deux explosions si différentes, et par les temps, et par les hommes. Après ce sourd mugissement, une forte canonnade vint à travers le silence, dans la direction de Malo-Jaroslavets. Autant Napoléon avait désiré ouïr ce bruit en entrant en Russie, autant il redoutait de l'entendre en sortant. Un aide de camp du vice-roi annonce une attaque générale des Russes. À la nuit, les généraux Compans et Gérard arrivèrent en aide au prince Eugène. Beaucoup d'hommes périrent des deux côtés. L'ennemi parvint à se mettre à cheval sur la route de Kalouga et fermer l'entrée du chemin intact qu'on avait espéré suivre. Il ne restait d'autre ressource que de retomber dans la route de Mojaïsk et de rentrer à Smolensk par les vieux sentiers de nos malheurs. On le pouvait. Les oiseaux du ciel n'avaient pas encore achevé de manger ce que nous avions semé pour retrouver nos traces. Napoléon logea cette nuit à Gorodnia, dans une pauvre maison où les officiers attachés aux divers généraux ne purent se mettre à couvert. Ils se réunirent sous la fenêtre de Bonaparte. Elle était sans volets et sans rideaux. On en voyait sortir une lumière, tandis que les officiers, restés en dehors, étaient plongés dans l'obscurité. Napoléon était assis dans sa chétive chambre, la tête abaissée sur ses deux mains. Murat, Berthier et Bessières se tenaient debout à ses côtés, silencieux et immobiles. Il ne donna point d'ordre et monta à cheval le 25 au matin pour examiner la position de l'armée russe. À peine était-il sorti que roula jusqu'à ses pieds un éboulis de Cosaques. La vivante avalanche avait franchi la Luja et s'était dérobée à la vue, le long de la lisière de bois. Tout le monde mit l'épée à la main, l'empereur lui-même. Si ces maraudeurs avaient eu plus d'audace, Bonaparte demeurait prisonnier. À Malojaroslavets, incendié, les rues étaient encombrées de corps à moitié grillés, coupés, sillonnés, mutilés par les roues de l'artillerie qui avaient passé sur eux. Pour continuer le mouvement sur Kalouga, il eût fallu livrer une seconde bataille. L'empereur ne le jugea pas convenable. Il s'était levé à cet égard une discussion entre les partisans de Bonaparte et les amis des maréchaux. Qui donna le conseil de reprendre la première route parcourue par les Français? Ce fut évidemment Napoléon. Une grande sentence funèbre à prononcer ne lui coûtait guère. Il en avait l'habitude. Revenu le 26 à Borovsk, le lendemain, près de Versia, on présenta au chef de nos armées le général Vintsigerod et son aide de camp, le comte Nariskine. Il s'était laissé surprendre en entrant trop tôt dans Moscou. Bonaparte s'emporta. « Qu'on fusille ce général » s'écrie-t-il hors de lui. « C'est un déserteur du royaume de Wurtemberg. Il appartient à la Confédération du Rhin. » Il se répand en invectives contre la noblesse russe et finit par ces mots. « J'irai à Saint-Pétersbourg, je jetterai cette ville dans la Neva. » Et subitement, il commande de brûler un château que l'on apercevait sur une hauteur. Le lion blessé se ruait en écumant sur tout ce qui l'environnait. Néanmoins, au milieu de ses folles colères, lorsqu'il intimait à Mortier l'ordre de détruire le Kremlin, il se conformait en même temps à sa double nature. Il écrivait au duc de Trévise des phrases de sensiblerie. Pensant que ses missives seraient connues, il lui enjoignait, avec un soin tout paternel, de sauver les hôpitaux. « Car c'est ainsi, ajoutait-il, que j'en ai usé à Saint-Jean d'Acre. Or, en Palestine, il fit fusiller les prisonniers turcs, et sans l'opposition de Desgenettes, il eût empoisonné ses malades. » Berthier et Murat sauvèrent le prince Vintsigerod. Cependant, Kutuzov nous poursuivait mollement. Wilson, pressait-il le général russe d'agir? Le général répondait, « Laissez venir la neige. » Le 29 septembre, on touche aux fatales collines de la Moscova. Un cri de douleur et de surprise échappe à notre armée. De vastes boucheries se présentaient, étalant 40 000 cadavres diversement consommés. Des files de carcasses alignées semblaient garder encore la discipline militaire. Des squelettes détachés en avant, sur quelques mamelons écrêtés, indiquaient les commandants et dominaient la mêlée des morts. Partout, armes rompues, tambours défoncés, lambeaux de cuirasses et d'uniformes, étendards déchirés, dispersés entre des troncs d'arbres coupés à quelques pieds du sol par les boulets. C'était la grande redoute de la Moscova. Au sein de la destruction immobile, on apercevait une chose en mouvement. Un soldat français, privé des deux jambes, se frayait un passage dans des cimetières qui semblaient avoir rejeté leurs entrailles au dehors. Le corps d'un cheval effondré par un obus avait servi de guérite à ce soldat. Il y vécut en rongeant sa loge de chair. Les viandes putréfiées des morts, à la portée de sa main, lui tenaient lieu de charpie pour panser ses plaies et d'amadou pour emmailloter ses os. L'effrayant remords de la gloire se traînait vers Napoléon. Napoléon ne l'attendit pas. Le silence des soldats, hâtés du froid, de la faim et de l'ennemi, était profond. Ils songeaient qu'ils seraient bientôt semblables aux compagnons dont ils apercevaient les restes. On entendait dans ce reliquaire que la respiration agitée et le bruit du frisson involontaire des bataillons en retraite. Plus loin, on retrouva l'abbaye de Kotlovskoï, transformée en hôpital. Tous les secours y manquaient. Là, restait encore assez de vie pour sentir la mort. Bonaparte, arrivé sur le lieu, se chauffa du bois de ses chariots disloqués. Quand l'armée reprit sa marche, les agonisants se levèrent, parvinrent au seuil de leur dernier asile, se laissèrent dévaler jusqu'au chemin, tendirent aux camarades qui les quittaient leurs mains défaillantes. Ils semblaient à la fois les conjurer et les ajourner. À chaque instant retentissait la détonation des caissons qu'on était forcé d'abandonner. Les vivandiers jetaient les malades dans les fossés. Des prisonniers russes qu'escortaient des étrangers au service de la France furent dépêchés par leurs gardes. Tués d'une manière uniforme, leur cervelle était répandue à côté de leur tête. Bonaparte avait emmené l'Europe avec lui. Toutes les langues se parlaient dans son armée. Toutes les cocardes, tous les drapeaux s'y voyaient. L'Italien, forcé au combat, s'était battu comme un Français. L'Espagnol avait soutenu sa renommée de courage. Naples et l'Andalousie n'avaient été pour eux que les regrets d'un doux songe. On a dit que Bonaparte n'avait été vaincu que par l'Europe entière. Et c'est juste. Mais on oublie que Bonaparte n'avait vaincu qu'à l'aide de l'Europe, de force ou de gré, son allié. La Russie résista seule à l'Europe, guidée par Napoléon. La France, restée seule et défendue par Napoléon, tomba sur l'Europe retournée. Mais il faut dire que la Russie était défendue par son climat, et que l'Europe ne marchait qu'à regret sous son maître. La France, au contraire, n'était préservée ni par son climat, ni par sa population décimée. Elle n'avait que son courage et le souvenir de sa gloire. Indifférent aux misères de ses soldats, Bonaparte n'avait souci que de ses intérêts. Lorsqu'il campait, sa conversation roulait sur des ministres vendus, disait-il, aux Anglais. Lesquels ministres étaient les fomentateurs de cette guerre? Ne se voulant pas avouer que cette guerre venait uniquement de lui. Le duc de Vicence, qui s'obstinait à racheter un malheur par sa noble conduite, éclatait au milieu de la flatterie au bivouac. Il s'écriait « Que d'atroces cruautés ! Voilà donc la civilisation que nous apportons en Russie ?» Aux incroyables dires de Bonaparte, il faisait un geste de colère et d'incrédulité et se retirait. L'homme que la moindre contradiction mettait en fureur souffrait les rudesses de Caulaincourt en expiation de la lettre qu'il avait jadis chargée de porter à Ettenheim. Quand on a commis une chose reprochable, le ciel en punition vous en impose les témoins. En vain les anciens tyrans les faisaient disparaître. Descendus aux enfers, ces témoins entraient dans le corps des furies et revenaient. Napoléon, ayant traversé Jatsk, poussa jusqu'à Viasma. Il le dépassa, n'ayant point trouvé l'ennemi qu'il craignait d'y rencontrer. Il arriva le 3 novembre à Slavskovo. Là, il apprit qu'un combat s'était donné derrière lui à Viasma. Ce combat, contre les troupes de Miloradovitch, nous fut fatal. Nos soldats, nos officiers blessés, le bras en écharpe, la tête enveloppée de linge, miracle de vaillance, se jetaient sur les canons ennemis. Cette suite d'affaires dans les mêmes lieux, ces couches de morts ajoutées à des couches de morts, ces batailles doublées de batailles, auraient deux fois immortalisé des chants funestes, si l'oubli ne passait rapidement sur notre poussière. Qui pense à ces paysans laissés en Russie? Ces rustiques sont-ils contents d'avoir été à la grande bataille sous les murs de Moscou? Il n'y a peut-être que moi qui, dans les soirées d'automne, en regardant voler au haut du ciel les oiseaux du Nord, me souvienne qu'ils ont vu la tombe de nos compatriotes. Des compagnies industrielles se sont transportées au désert avec leurs fourneaux et leurs chaudières. Les eaux ont été converties en noir animal. Qu'ils viennent du chien ou de l'homme, le vernis est du même prix. Il n'est pas plus brillant, soit qu'il ait été tiré de l'obscurité ou de la gloire. Voilà le cas que nous faisons des morts aujourd'hui. Voilà les rites sacrés de la nouvelle religion. Diis manibus. Heureux compagnons de Charles XII, vous n'avez point été visités par ces hyènes sacrilèges. Pendant l'hiver, l'hermine fréquente les neiges virginales et pendant l'été, les mousses fleuries de Poultava. Le 6 novembre 1812, le thermomètre descendit à 18 degrés au-dessous de zéro. Tout disparaît sous la blancheur universelle. Les soldats sans chaussures sentent leurs pieds mourir. Leurs doigts, violâtres et raidis, laissent échapper le mousquet dont le toucher brûle. Leurs cheveux se hérissent de givre, leurs barbes de leur haleine congelées. Leurs méchants habits deviennent une casaque de verglas. Ils tombent, la neige les couvre. Ils forment sur le sol de petits sillons de tombeaux. On ne sait plus de quel côté les fleuves coulent. On est obligé de casser la glace pour apprendre à quel orient il faut se diriger. Égarés dans l'étendue, les divers corps font des feux de bataillon pour se rappeler et se reconnaître. De même que des vaisseaux en péril tirent le canon de détresse. Les sapins changés en cristaux immobiles s'élèvent çà et là, candélabres de ces pompes funèbres. Des corbeaux et des meutes de chiens blancs sans maître suivaient à distance cette retraite de cadavres. Il était dur, après les marches, d'être obligé, à l'étape déserte, de s'entourer des précautions d'un hoste sain, largement pourvu, de poser des sentinelles, d'occuper des postes, de placer des grands gardes. Dans des nuits de 16 heures, battues des rafales du nord, on ne savait ni où s'asseoir, ni où se coucher. Les arbres jetés bas, avec tous leurs albâtres, refusaient de s'enflammer. À peine parvenait-on à faire fondre un peu de neige, pour y démêler une cuillerée de farine de seigle. On ne s'était pas reposé sur le sol nu que des hurlements de cosaques faisaient retentir les bois. L'artillerie volante de l'ennemi grondait. Le jeûne de nos soldats était salué comme le festin des rois lorsqu'ils se mettent à table. Les boulets roulaient leur pain de fer au milieu des convives affamés. À l'aube, que ne suivait point l'aurore, on entendait le battement d'un tambour drapé de frimas ou le son enroué d'une trompette. Rien n'était triste comme cette diane lugubre. appelant sous les armes des guerriers qu'elle ne réveillait plus. Le jour grandissant éclairait des cercles de fantassins raidis et morts autour des bûchers expirés. Quelques survivants partaient, ils s'avançaient vers des horizons inconnus qui, reculant toujours, s'évanouissaient à chaque pas dans le brouillard. Sous un ciel pantelant, et comme lassés des tempêtes de la veille, nos files éclaircies traversaient des landes après des landes, des forêts suivies de forêts, et dans lesquelles l'océan semblait avoir laissé son écume attachée aux branches échevelées des bouleaux. On ne rencontrait même pas dans ces bois ce triste petit oiseau de l'hiver qui chante, ainsi que moi, parmi les buissons dépouillés. Si je me retrouve tout à coup, par ce rapprochement, en présence de mes vieux jours, ô mes camarades, les soldats sont frères, vos souffrances me rappellent aussi mes jeunes années, lorsque me retirant devant vous, je traversais, si misérable et si délaissé, la bruyère des Ardennes. Les grandes armées russes suivaient la nôtre. Celle-ci était partagée en plusieurs divisions qui se subdivisaient en colonnes. Le prince Eugène commandait l'avant-garde, Napoléon le centre, l'arrière-garde, le maréchal Ney. Retardé de divers obstacles et combats, ses corps ne conservaient pas leur exacte distance. Tantôt, ils se devançaient les uns les autres. Tantôt, ils marchaient sur une ligne horizontale, très souvent sans se voir et sans communiquer ensemble, faute de cavalerie. Des tauridiens, montés sur de petits chevaux dont les crins balayaient la terre, n'accordaient de repos ni jour ni nuit à nos soldats, harassés par ces temps de neige. Le paysage était changé. Là où l'on avait vu un ruisseau, on retrouvait un torrent que des chaînes de glace suspendaient aux bords escarpés de sa ravine. Dans une seule nuit, dit Bonaparte, papier de Sainte-Hélène, on perdit 30 000 chevaux. On fut obligé d'abandonner presque toute l'artillerie, forte alors de 500 bouches à feu. On ne put emporter ni munitions ni provisions. Nous ne pouvions, faute de chevaux, faire de reconnaissance ni envoyer une avant-garde de cavalerie reconnaître la route. Les soldats perdaient le courage et la raison et tombaient dans la confusion. La circonstance la plus légère les alarmait. 4 ou 5 hommes suffisaient pour jeter la frayeur dans tout un bataillon. Au lieu de se tenir réunis, ils erraient séparément pour chercher du feu. Ceux qu'on envoyait en éclaireurs abandonnaient leur poste et allaient chercher les moyens de se réchauffer dans les maisons. Ils se répandaient de tous côtés, s'éloignaient de leur corps et devenaient facilement la proie de l'ennemi. D'autres se couchaient sur la terre, s'endormaient. Un peu de sang sortait de leurs narines et ils mouraient en dormant. Des milliers de soldats périrent. Les Polonais sauvèrent quelques-uns de leurs chevaux et un peu de leur artillerie. Mais les Français et les soldats des autres nations n'étaient plus les mêmes hommes. La cavalerie a surtout beaucoup souffert. Sur 40 000 hommes, je ne crois pas qu'il en soit échappé 3 000. Et vous, qui racontiez cela sous le beau soleil à d'un autre hémisphère, n'étiez-vous que le témoin de tant de maux? Le jour même, 6 novembre, où le thermomètre tomba si bas, arriva de France, comme une fraisée égarée, la première estafette que l'on eût vue depuis longtemps. Elle apportait la mauvaise nouvelle de la conspiration de Malais. Cette conspiration eut quelque chose du prodigieux de l'étoile de Napoléon. Au rapport du général Gourgaud, ce qui fit le plus d'impression sur l'empereur fut la preuve trop évidente que les principes monarchiques, dans leur application à sa monarchie, avaient jeté des racines si peu profondes que de grands fonctionnaires, à la nouvelle de la mort de l'empereur, oublièrent que, le souverain étant mort, un autre était là pour lui succéder. Bonaparte à Sainte-Hélène, mémorial de Las Casas, racontait qu'il avait dit à sa cour des Tuileries, en parlant de la conspiration de Malet, « Eh bien, messieurs, vous prétendiez avoir fini votre révolution, vous me croyez mort, mais le roi de Rome, vos serments, vos principes, vos doctrines, vous me faites frémir pour l'avenir. » Bonaparte raisonnait logiquement. Il s'agissait de sa dynastie. Aurait-il trouvé le raisonnement aussi juste s'il s'était agi de la race de Saint-Louis ? Bonaparte apprit l'accident de Paris au milieu d'un désert, parmi les débris d'une armée presque détruite dont la neige buvait le sang. Les droits de Napoléon, fondés sur la force, s'anéantissaient en Russie avec sa force, tandis qu'il avait suffi d'un seul homme pour les mettre en doute dans la capitale. Hors de la religion, de la justice et de la liberté, il n'y a point de droit. Presque au même moment que Bonaparte apprenait ce qui s'était passé à Paris, il recevait une lettre du maréchal Ney. Cette lettre lui faisait part que les meilleurs soldats se demandaient pourquoi c'était à eux seuls à combattre pour assurer la fuite des autres. Pourquoi l'aigle ne protégeait plus et tuait ? Pourquoi il fallait succomber par bataillon puisqu'il n'y avait plus qu'à fuir ? Quand l'aide de camp de Ney voulut entrer dans des particularités affligeantes, Bonaparte l'interrompit. « Colonel, je ne vous demande pas ces détails. » Cette expédition de la Russie était une vraie extravagance que toutes les autorités civiles et militaires de l'Empire avaient blâmée. Les triomphes et les malheurs que rappelait la route de retraite aigrissaient ou décourageaient les soldats. Sur ce chemin monté et redescendu, Napoléon pouvait trouver aussi l'image, des deux parts, de sa vie.